TSF Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran.
Aujourd'hui, Little Girl Blue, aux origines de Nina Simone. Baby, my baby don't care for shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. Nous sommes fin 1957, devant le 1650 Broadway, au cœur de Manhattan. Un immeuble de bureaux typiquement new-yorkais, de belles pierres, une entrée majestueuse, une adresse de prestige dans le monde du show business. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans une petite brochure d'époque. Si vous êtes artiste, éditeur de musique ou producteur de théâtre, le 1650 sur Broadway, c'est là où il faut être. Et c'est ici, justement, que se présente une jeune femme de 24 ans par une froide matinée d'hiver. Elle s'appelle Nina Simone, et elle a rendez-vous pour enregistrer son premier album dans l'un des studios les plus courus de Manhattan. Pour Nina Simone, le 1650 Broadway n'est pas une adresse inconnue. C'est là qu'elle a paraffé son contrat avec le label Bethlehem quelques semaines plus tôt. Fondée par un immigré suisse, Bethlehem est une petite compagnie indépendante. Un jeune producteur nommé Creed Taylor s'y est rodé sur les premiers disques de la chanteuse Chris Connor, la star du label. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be ways to reveal. Deux ans plus tard, en 1955, c'est Carmen McRae qui grave chez Bethlehem l'un de ses premiers albums. You'd be so grand at the game, so carefree together, that it does seem a shame. Depuis, d'autres vocalistes plus ou moins connus se sont succédés. Mel Tormé, Hélène Carr, qu'on a déjà croisé dans l'émission, mais aussi Peggy Connelly ou encore Betty Rush. Le credo du patron, à Bethlehem, on n'a pas d'argent, mais nos artistes ont carte blanche. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est en gros le discours qu'il tient à la jeune Nina Simone lorsqu'elle se présente devant lui. À l'époque, la chanteuse est pratiquement inconnue à New York. Lorsqu'elle entrera en studio pour son baptême du feu, elle devra même préciser à l'ingénieur du son que oui, c'est elle qui va s'accompagner au piano. Car avant d'être chanteuse, Nina fut d'abord pianiste. L'histoire est connue, elle a été maintes fois racontée. Mais dans son dernier ouvrage, Nina Simone, aux éditions Le Mot et le Reste, Frédéric Adrian fait le tri entre réalité, mythes et légendes. Nina Simone, c'est le destin contrarié d'une jeune afro-américaine qui s'est rêvée pianiste classique. Originaire de Tryon, une toute petite ville de Caroline du Nord où se dresse aujourd'hui sa statue, Nina, de son vrai nom Eunice Kathleen Wayman, est une enfant prodige. Sa mère l'a installée très tôt derrière un orgue d'église, et à 6 ans, c'est elle qui a baptisé le piano familial. À l'époque, Nina navigue déjà entre deux eaux. D'un côté, la rigueur d'une mère qui n'a Dieu que pour la musique sacrée ou sérieuse, et de l'autre, la souplesse d'un père qui, dans son dos, lui ouvre le champ des musiques profanes et populaires. Mais c'est une professeure particulière, impressionnée par le talent de la jeune fille, qui va la précipiter dans les bras de Bach et des grands compositeurs européens. Une chance et en même temps un cadeau empoisonné. Convaincue qu'elle peut devenir concertiste classique, Nina Simone se cassera plusieurs fois les dents sur l'examen d'entrée du prestigieux Curtis Institute de Philadelphie. Un échec fondateur dans l'histoire de Nina, qu'elle expliquera par le racisme d'une Amérique qui interdit aux Noirs l'accès à ce que l'on appelle la grande musique. Or, dans son livre, Frédéric Adrian tempère. Le Curtis Institute n'était pas fermé aux Afro-Américains. En revanche, c'est vrai qu'il était très sélectif. Et si Nina n'était pas prête, et si d'autres étaient plus doués qu'elle? Résultat, c'est dans un club de Philadelphie qu'un chasseur de tête du label Bethlehem va la repérer. Une autre version de l'histoire raconte qu'un admirateur qui lui a payé sa première démo 2 ans plus tôt à Atlantic City a apporté la bande au bureau du 1650 sur Broadway. Quoi qu'il en soit, Gus Wilde, le patron de Bethlehem, découvre cette jeune femme à la voix si particulière et au jeu de piano hanté par le classique. Et la première chanson qu'il entend d'elle, c'est celle-ci.
Qui sonne le jazz ? David Copéran sur TSF Jazz.
Aujourd'hui, Little Girl Blue aux origines de Nina Simone. C'est avec le contrebassiste Jimmy Bond et le batteur Albert Tutti Heath que Nina Simone franchit pour la première fois la porte d'un studio pour graver son tout premier album en cette fin d'année 57. L'atmosphère de la séance est particulière. Inexpérimentée, la jeune femme de 24 ans impose pourtant ses conditions. Elle jouera comme elle le fait d'habitude dans les clubs de Philadelphie, le public en moins. On éteint les lumières et on dispose une petite lampe au chevet du piano. Alors, Nina déroule son répertoire. Un blues, un standard d'Ellington, des airs de comédie musicale, You'll Never Walk Alone, à qui elle donne des airs de sonate au clair de lune et où affleure toute sa culture classique. Qui rappelle que Nina Simone était d'abord pianiste et que si elle est devenue chanteuse, c'était par nécessité, pour ne pas se faire virer de son premier boulot dans un bar d'Atlantic City. Elle y avait joué magnifiquement bien, mais à la fin de la soirée, le patron lui avait dit « Super, mais tu ne pourrais pas chanter plus tôt ?»
Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love.
Le chant, un exercice auquel Nina se plie finalement de bonne grâce. D'autant qu'elle possède cette voix hors norme, hors du commun, pleine de grâce et de caractère. Et entre deux couplets, elle peut toujours rhapsodiser à sa guise. La séance de Little Girl Blue va durer 14 heures. Enregistrée au naturel, présentée au plus près de la vérité du club, Nina Simone se révèle déjà comme une artiste au charisme fou et à l'allure singulière. Avec elle, on est sans arrêt le cul entre deux chaises. D'un côté, la première de la classe qui mériterait sa place au Carnegie Hall, et de l'autre, la gouailleuse qui tient la scène dans les boîtes jusqu'au petit matin. La pochette du disque pour laquelle on a missionné le photographe de Dinah Washington montre Nina assise sur un banc de Central Park. Elle ne dit pas grand-chose au fond du talent de la jeune femme. L'album, lui, va mettre du temps avant de trouver son public. Frôlant la banqueroute, le label Bethlehem va changer de main et retarder d'un an la sortie du disque, provoquant in fine la rupture du contrat de Nina. Lorsque Little Girl Blue arrive enfin dans les bacs, sans aucune promotion, la chanteuse a déjà tourné la page. Pour elle, cet album est même une sorte d'épine dans le pied. Ce qui n'empêchera pas I Love You Porgy d'être repéré par un DJ radio de Philadelphie lançant sa carrière pour de bon.
I love you, Porgy, don't let 'em take me.
En fait, toute cette histoire, celle du premier album de Nina, ressemble à un énorme malentendu. Comme cette chanson d'un vieux musical des années 30 qu'elle lance au débeauté à la fin de la séance parce qu'on lui demande un titre un peu plus enlevé. Cette chanson, que Bethlehem finira par sortir en catimini 3 ans plus tard, c'est My Baby Just Cares. Celle qui, 30 ans après, sauvera sa carrière, et tout cela grâce à une publicité pour un parfum qui, comble du comble, ne lui rapportera pas un copec.
I am Chanel number 5.
Édité, compilé, repackagé jusqu'à l'excès, Little Girl Blue ressort enfin aujourd'hui dans sa version d'origine, et ce grâce aux bons soins de la maison BMG. Pour ceux qui veulent aller plus loin, jetez-vous sur le coffret Nina's Blues 1959-1962, une anthologie du label Frémo et Associés. Enfin, au rayon livre, ne manquez pas l'excellent Nina Simone de Frédéric Adrian, chez Le Mot et le Reste.
Close.